vous avancer. On va le répéter dans quelques instants, je pense, pour les quelques retardataires. Ici, c'est le cours Survol d'histoire de l'Église. J'apprécierais vraiment que vous avanciez en avant des colonnes, s'il vous plaît. Si vous êtes dans mon cours, je vais au moins avoir l'impression d'avoir quelques élèves ici. Alors, Alexandre commence son cours la semaine prochaine. D'accord? Je vais juste les donner dans l'ordre. Ici, c'est le Survol d'histoire de l'Église. Ça va? Juste un instant. Michel va donner le cours de membres juste ici, sur ma droite. Stéphane Rondeau, le Millennium, derrière moi, ici, à la bibliothèque. Il y a le groupe de prière des hommes dans les bureaux, le groupe de prière des dames dans les bureaux. Comme j'ai mentionné, Alexandre Marquis, le cours sur l'évangélisation, développer des amitiés pour l'évangélisation, c'est dans le local là-bas, mais ça commence dimanche prochain. Et puis, le cours de préparation au baptême et le cours « La foi chrétienne expliquée » sont en haut dans les bureaux. Oui, je vais répéter peut-être dans une dizaine de minutes. C'est bon? Pour ceux qui sont avec moi dans le cours de survol d'histoire de l'Église, il y a des feuilles sur les chaises juste dans le coin-là. Vous avez des feuilles pliées. De votre côté aussi, vous en avez peut-être juste en avant, la rangée en face. Alors, là, je ne savais pas combien d'élèves j'allais avoir. On a une trentaine de feuilles de préparer. Peut-être que vous pouvez en prendre une par couple pour ce matin. Et puis, on va ajuster selon l'assistance. OK, alors on va commencer. C'est dans les bureaux, à l'étage. Oui. Je vais répéter tout ça environ dans 5 minutes, d'accord? Mais on va semi-commencer en attendant. Alors, on va aller ensemble dans un mot de prière. Éternel notre Dieu, merci pour cette nouvelle année qui commence. Merci pour la présence de ton esprit au milieu de nous, Seigneur. Merci pour le privilège de pouvoir étudier en toute liberté ta parole, l'histoire glorieuse de ton Église à travers les siècles. Merci, Seigneur, pour ce privilège de pouvoir grandir en toi. On te demande, Père, de bénir ce temps ce matin. On te demande d'éveiller nos esprits afin qu'on soit bien disponibles, Seigneur, pour plonger, pour apprendre, pour grandir, pour se ressourcer, Seigneur, parce que nous voulons devenir en 2012 de meilleurs disciples de Christ, davantage à ton image, Seigneur. Viens nous bénir ensemble. Je te prie, Père, pour toute l'Assemblée, que l'Assemblée puisse prendre à cœur de s'instruire et de grandir dans sa foi, Seigneur, de s'appliquer sérieusement à ces choses afin d'être davantage à ton image. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Oui. Non, il faut que tu aies, je sais pas. Je suis enregistré, là. Alors, les cours sont commencés. Messieurs, dames à l'arrière, si vous voulez venir prendre place, s'il vous plaît. On va se donner un dimanche de grâce sur nos heures de début de cours. OK, alors on va commencer. Alors, comme j'ai mentionné, vous avez des feuilles de notes dans les deux coins. Tout à l'heure, on verra s'il en manque. On en aura plus pour la semaine prochaine. Survol d'histoire de l'Église. Qui a déjà fait un survol d'histoire de l'Église ici? Vous avez déjà lu là-dessus? Vous avez lu sur ça? Qu'est-ce que vous avez lu précis d'histoire de l'Église? Vous avez fait le cours ici peut-être il y a quelques années? Toi, t'avais-tu lu précis d'histoire de l'Église de Jules Marcel Nicole, non? Suivi le cours ici. OK. On a prié. C'est beau. Merci. Je m'excuse. Dans les notes, Actes 8, 1 et 4. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Qu'est-ce que l'histoire de l'Église? Lorsqu'on parle d'histoire de l'Église, on parle de l'histoire de ce que Christ a bâti à travers 2000 ans d'histoire jusqu'à présent. Jésus nous donne une promesse extraordinaire. Il nous dit qu'il va bâtir son Église. Et lorsqu'on traverse les siècles comme ça et qu'on traverse l'histoire de l'Église, nous voyons comment Dieu a souverainement, dans sa grâce, protégé son Église à travers des tribulations incroyables. Ce matin, on parle des 300 premières années avec les persécutions. Donc, il y a eu des tribulations extrêmement difficiles. Il y a des moments dans l'histoire de l'Église où, visuellement, à œil humain, on était à un cheveu de disparaître complètement, d'accord? À travers l'histoire de l'Église, dans des moments de persécution, entre autres. Mais plus tard aussi, dans des moments avec l'Église catholique où l'Évangile était pratiquement disparu. Mais on voit la main souveraine de Dieu. On voit Jésus-Christ bâtir son Église et avoir un impact sur le monde comme aucune autre religion dans le monde. Et on voit vraiment la grâce de Dieu à travers les siècles. Donc, ça demeure quelque chose qui est profondément édifiant. On voit tantôt des raisons pour lesquelles on devrait étudier l'histoire de l'Église. Quand on parle d'histoire de l'Église, on parle de deux types d'histoires. Puis là, je vais vous poser une petite question quiz ce matin. On parle d'histoire naturelle, puis on parle d'histoire de la rédemption ou d'histoire rédemptive. Je ne sais pas vraiment comment le traduire comme ils font en français. Histoire naturelle et histoire rédemptive. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée de quoi on parle lorsqu'on parle de ces deux types d'histoires-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'essayer? Louise. OK, c'est intéressant. Ça aurait pu être ça. C'est vrai, ça aurait pu être ça. Bon, je vais vous donner un indice, là, parce que je vous ai peut-être induit en erreur. L'histoire naturelle, on parle généralement de l'histoire de l'humanité entière. D'accord? Alors, je vais juste répéter, là, pour ceux qui arrivent, le cours de membres, l'Église de l'Espoir se donne sur ma droite. Le cours sur le millénium est derrière moi. Survol d'histoire de l'Église, c'est ici. Alexandre Marquis commence son cours dimanche prochain. Ça va se donner là-bas. Les prières des hommes, des dames, c'est à l'étage. Cours de préparation au baptême à l'étage. Et puis, la foi chrétienne expliquée à l'étage. Donc, lorsqu'on parle d'histoire naturelle et d'histoire de la rédemption, l'histoire naturelle, c'est le récit des faits, des dates, des personnages, des gens qui ont défini toute l'histoire. On regarde dans le passé et les historiens notent, étudient, lisent pour essayer de retenir, de comprendre, d'analyser qu'est-ce qui s'est passé à travers l'histoire de l'humanité. Cette histoire-là est accessible à tout le monde. D'accord? Chrétiens, non-chrétiens, on étudie, on essaie de comprendre. Tout le monde est subjectif dans la lecture de l'histoire. Lorsqu'on lit l'histoire dans le passé, on l'interprète, on la réinterprète des fois à la lumière de ce qu'on voudrait découvrir dans cette histoire-là, puis on va lui donner des interprétations, d'accord? Mais ça, c'est l'histoire naturelle. L'histoire de la rédemption, c'est celle qui est disponible, celle qui est accessible seulement aux chrétiens. Nous croyons et nous savons que Dieu est un Dieu souverain. Le grand historien, celui qui écrit l'histoire de l'humanité, c'est Dieu. C'est lui qui a des desseins éternels, qui accomplit ses desseins tels qu'il les a conçus. Et donc, c'est Dieu qui est l'historien par excellence. Les non-chrétiens n'ont pas cette perspective-là. Ils ne vont pas lire l'histoire en essayant de voir ce que Dieu est en train d'accomplir à travers l'histoire. L'histoire de la rédemption, c'est l'histoire de l'intervention de Dieu parmi les hommes pour accomplir son plan de salut. Et lorsqu'on lit, par exemple, l'Ancien Testament, si vous êtes familier avec l'Ancien Testament, vous voyez des interventions divines même parmi d'autres peuples, d'autres nations que la nation d'Israël. Et donc, Dieu intervient dans l'histoire. C'est l'histoire de la rédemption. D'accord? Et Dieu est souverain, c'est lui l'auteur. À travers le cours, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on voit un peu les deux. On voit l'histoire telle que les historiens nous raconteraient l'histoire de l'Église, mais on va essayer de voir ensemble ce que Dieu est en train de faire souverainement. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous êtes familier un petit peu avec la Grande Réforme, 16e siècle, 17e siècle, Martin Luther, Calvin, tout ça, est-ce que ça vous dit quelque chose? On va voir ça ensemble à travers le cours. Si je ne suis pas chrétien, je ne vois pas l'intervention d'une grâce de Dieu pour nous redonner l'Évangile. D'accord? Parce que la manière que je vais interpréter ça, je vais dire, bon, ben, on arrive au développement de l'humanisme. Au 15e, au 16e siècle, l'humanisme est en train de se développer. Les gens sont en train de s'émanciper des institutions. Et donc, on va redonner la Bible au peuple. Et effectivement, les réformateurs ont contribué très étroitement avec les philosophes humanistes pour faire la promotion de la connaissance pour tout le monde. D'accord? Si je suis pas chrétien, c'est juste ça que je vais voir à travers ça. Lorsque je lis cette histoire-là comme chrétien, je vois la grâce de Dieu, alors que l'Évangile avait pratiquement été complètement couvert par toutes sortes de doctrines, toutes sortes de fausses doctrines qui avaient été ajoutées. On était loin de la Bible. Et je vois la souveraineté de Dieu pour redonner l'Évangile. Et là, je vois la protection, la protection divine sur Martin Luther qui allait être assassiné. Et on avait besoin de lui à ce moment-là. Ça, c'est l'histoire de la rédemption. L'histoire telle que les chrétiens vont la voir, telle que nous, on va la comprendre. C'est bon? À travers le cours, on va vraiment faire un survol de l'histoire. Je tiens à le mentionner parce qu'on passe 12 ou 13 leçons pour couvrir 2000 ans d'histoire. OK? Alors, si vous désirez aller un petit peu plus loin, mais en même temps, aller chercher plus d'informations, des témoignages, tout ça, je voudrais vous recommander un livre qui date un peu, mais c'est le meilleur qu'on a en français, puis il est très édifiant. Ça s'appelle « Précis d'histoire de l'Église » de Jules-Marcel Nicole. C'est un document d'à peu près 200 pages, 225 pages. Ça se lit très, très bien. Et il y a beaucoup, beaucoup de citations et de témoignages dedans. Et l'avantage d'avoir des citations d'historiens ou des gens de l'époque ou des témoignages qui sont là, c'est que on n'est pas juste en train de vous donner des informations sur ce qui s'est passé, mais vous entendez les gens tels qu'ils l'ont vécu ou tels qu'ils l'ont observé. Ça s'appelle « Précis d'histoire de l'Église » de Jules-Marcel Nicole. Vous l'avez sur la 4e acétate à peu près. Sylvie, si tu veux nous amener, c'est ça. C'est intitulé « Un cours session », cet acétate-là. Et puis, il y a un autre livre en anglais qui est plus complet encore. Là, on parle d'à peu près 350-400 pages, « The History of Christianity » de Tim Dooley. Et c'est aussi une très bonne introduction. Beaucoup plus graphique, celui-là. Il y a beaucoup d'images dedans. Il y a même un DVD qui vient avec toutes sortes d'images. Mais dans le cours, je vais essayer de vous donner un maximum d'images juste pour qu'on puisse voir les choses, qu'on puisse mettre des visages, situer les temps, les moments. C'est bon? Alors, ça va vraiment être un survol d'histoire de l'Église. Un des bénéfices importants de faire un survol d'histoire de l'Église, un survol de cette histoire-là, c'est de réaliser que notre foi à nous s'inscrit dans une histoire. D'accord? Notre vie est courte, hein? Notre vie est courte, là. Moi, j'ai 41 ans, je vais avoir 42 ans, il me reste quoi? 20, 30 ans, 35 ans à vivre, puis je vais être passé. Et moi, je suis entré en contact avec la foi à travers la foi de ma mère. Puis pour moi, l'Évangile a comme histoire ici au Québec, moi, ma mère, l'Église de Longueuil, j'ai rencontré quelques-uns des pionniers qui ont amené l'Évangile au Québec dans les années 50, dans les années 60. Certains, j'ai pu vraiment les connaître davantage. Mais au-delà de ça, ma foi s'arrête à peu près là. Et j'ai même pas une perspective de ce qui est en train de se passer partout sur la Terre en ce moment. Mais en réalité, pour que l'Évangile se soit rendu jusqu'à moi, il a fallu que l'Évangile soit transmis à travers 2000 ans d'histoire. À travers 2000 ans où il y a eu des périodes de persécution terribles, même au Québec, il y a eu des persécutions par rapport au christianisme. Il y a 2000 ans d'histoire où les gens se sont battus, ont lutté pour grandir dans la foi, ont lu la Bible. Ça fait 2000 ans que des chrétiens lisent les Écritures, le Nouveau Testament, ou à peu près, d'accord? Lisent le Nouveau Testament pour comprendre, réfléchissent comment l'appliquer dans leur vie. C'est riche, ça. C'est riche. Et tant que je regarde pas l'histoire de l'Église, je peux avoir une perspective qui est très, très centrée sur ici, maintenant et moi. Puis là, je regarde, puis par exemple, pour les pasteurs, on arrive, puis là, on voit l'Église qui, oh, ça grandit pas. OK, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer une nouvelle patente. On va essayer ça. Quand tu lis l'histoire de l'Église, tu étudies l'histoire de l'Église, tu vois qu'ils en ont essayé pas mal de patentes. Je me suis dit, peut-être dans le fond, il faut prier pour que Dieu fasse un réveil. C'est peut-être pas une nouvelle patente, c'est peut-être une intervention de Dieu. Oh, là, tu lis sur les réveils, tu découvres qu'il y a eu des périodes de réveil extraordinaires où il y avait des milliers, des milliers, des milliers de personnes qui se convertissaient dans quelques semaines dans une région donnée. Là, tu dis, ah, OK, ça, c'est une intervention de Dieu, c'est extraordinaire. Et donc, ça donne de la perspective. Ça donne de la perspective. Des fois, les gens arrivent, par exemple. Les gens arrivent, puis ils me parlent de l'Église, puis ils disent, ah, tu sais, il y en a que l'Église, tu sais... pas aussi génial que je pensais. T'sais. Ils sont en train de découvrir qu'il y a des pécheurs dans l'Église. Puis là, ah oh, ouais, c'est comme ci, c'est comme ça. T'sais. Bon, s'ils n'ont pas beaucoup de connaissances de l'histoire de l'Église, je vais les tourner évidemment vers Corinthiens. Puis je vais leur dire, j'aimerais ça t'aille relire un Corinthien. Puis tu me parles de l'Église de Corinthe. Deux Corinthiens. Va les Philippiens. Parle-moi de l'Église de Philippe, t'sais, qui était une Église un peu plus consacrée. Puis là, on est en train de prendre la perspective de voir que déjà à cette époque-là, wow, il y avait des luttes. Puis Jésus l'avait dit, voilà les évangiles maintenant. Lorsque je lis l'histoire de l'Église, je me rends compte que l'histoire de l'Église, c'est l'histoire d'un peuple qui est racheté et qui est dans un processus de sanctification. Et constamment, c'est ça que j'observe. Et donc, c'est une histoire qui a des hauts, qui a des bas, qui a des chutes, qui a des bons moments, qui a des bons coups, des mauvais coups. Ça, c'est l'histoire de l'Église. Notre foi à nous s'inscrit dans une grande histoire. Et c'est bon de savoir la placer là parce qu'il y a de l'édification à trouver derrière ça. Alors, d'après vous, j'en ai mentionné au moins une, c'est quoi l'utilité d'étudier l'histoire de l'Église? Juste avant de l'afficher, c'est quoi l'utilité d'après vous d'étudier l'histoire de l'Église? Donnez-moi quelques idées. Oui, Louise. Essayez d'éviter de répéter les mêmes erreurs. L'être humain n'est pas super bon à ça, là. En général, les enfants vont répéter les erreurs des parents. Hein? Fait que, on n'est pas super bon à ça, mais on essaie. Hein? On essaie de le faire. D'accord? Pas répéter les mêmes erreurs. Quoi d'autre? Oui. Que l'Église survit, c'est ça que tu dis? Malgré les persécutions. Définitivement, étudier l'histoire de l'Église, ça nous aide à grandir dans notre foi en Dieu, notre confiance en Dieu. Voir que ce Dieu-là est grand, qu'il est puissant, qu'il est souverain, malgré toutes les attaques qu'il y a eu contre l'histoire de l'Église. Et donc, si je suis en train de... Je lis un texte biblique qui dit que Christ va préserver jusqu'à la fin ceux qui ont été appelés. Là, je dis, ouais, OK, c'est vrai, il me le promet. Puis là, je regarde comment ça va aujourd'hui dans le monde. Puis je dis, ouais, il y a des régions où l'Évangile avance, mais ici au Québec, là, qu'est-ce qui se passe? On dirait que les gens croient de moins en moins, sont de moins en moins ouverts. Qu'est-ce qui se passe? Puis je peux littéralement être angoissé avec ça. Je me dis, mais où on s'en va avec cette affaire-là? Quand j'étudie l'histoire de l'Église, cette promesse que Christ nous a donnée, qu'elle est préservée, qu'elle est sauvée jusqu'à la fin, je la vois s'accomplir à travers les siècles. Je vois Dieu dans sa souveraineté faire des interventions extraordinaires, d'accord? Pour protéger. Et donc, ça me porte à l'adoration, ça me porte à avoir confiance en Dieu. D'autres choses. Qu'est-ce que je peux retirer de l'histoire de l'Église, de cette étude-là? Avoir des modèles. Avoir des modèles. Il y a des gens qui ont fait des choses incroyables dans des moments difficiles, dans des moments glorieux, et apprendre à les connaître, ces gens-là, pour qu'ils deviennent des modèles pour ma vie, pour ma foi. Définitivement. Des gens comme John Bunyan, si vous avez lu Le Pèlerin, mais John Bunyan a écrit ça pendant qu'il était en prison. Il était en prison puis il est en train d'écrire un conte, Le Pèlerin, pour nous aider à saisir notre foi. Et lorsque tu lis Le Pèlerin en sachant qu'il est en prison à cause de sa foi à ce moment-là, oh, ça donne toute une autre perspective à ta lecture, donc ça te procure des modèles. OK, on va aller à l'acétate avec la liste des raisons pour lesquelles on devrait étudier l'histoire. Premièrement, c'est un principe biblique. C'est un principe biblique. Dans les Écritures, constamment, il nous est répété, regardez vos pères, regardez leur foi, regardez comment eux, ils ont marché, apprenez de leur foi. Et donc, on devrait avoir cette attitude de regarder en arrière. Regardez aux saintes Écritures, mais regardez à nos pères dans la foi pour apprendre d'eux, pour les imiter, pour apprendre là où on veut peut-être pas les imiter aussi. Mais donc, c'est un principe des Écritures. Deuxièmement, l'histoire peut nous enseigner. Troisièmement, en étudiant l'histoire, on apprend l'humilité. Nous, on a l'impression qu'on a peut-être trouvé comme la nouvelle affaire qui va tout changer. Tu sais. Mais quand tu lis l'histoire de l'Église, tu découvres des gens qui ont fait des choses à des moments où, je pense à Jonathan Edwards à travers les grands réveils. Tu lis ça, je vous donne un exemple, Jonathan Edwards. Il a conduit un des plus grands réveils dans l'histoire de l'Église. Absolument extraordinaire. Cet homme-là était pasteur. Peut-être 15 ans après ces réveils-là qui se sont passés en Nouvelle-Angleterre, peut-être 15 ans après ces réveils-là, Jonathan Edwards a été renvoyé de son église par l'Église. L'Église le met à la porte. D'accord? Parce qu'il y avait des jeunes dans l'Église qui avaient fait des excès d'alcool dans un groupe de jeunes. Puis là, on parle à peu près là, du 18e siècle, d'accord? Puis il y avait des jeunes qui avaient fait des excès d'alcool, puis il y a eu des propos grivois, tout ça. Puis Jonathan Edwards les avait repris. Ça a fait toute une histoire, parce que là, il y avait des clans familiales dans l'Église. Finalement, l'Église l'a renvoyé. Ce gars-là, il a été mis à la porte de l'Église, d'accord? Il a perdu sa job. Quand tu es un pasteur puis tu dis ça, c'est comme tu dis, OK, c'est correct, Seigneur. Je vais juste m'appliquer à bien faire les choses. C'est pas grave ce qui se passe avec moi. Je suis juste là pour te servir. Puis après ça, il est allé comme missionnaire. D'accord? Il est allé comme missionnaire. Dieu l'avait utilisé d'une manière extraordinaire dans les réveils, mais comme théologien. C'est un des théologiens les plus importants. Je dirais après la Réforme, c'est un des théologiens les plus importants, Jonathan Edwards. Mais c'était une époque où les gars étaient multidisciplinaires. Fait qu'ils étaient pasteurs, théologiens, puis ils tripaient sur la science. Fait qu'il y avait des amis scientifiques qui étaient en train de tester des nouveaux vaccins. Puis il s'est porté volontaire et il est décédé des conséquences des suites de ça. D'accord? Fait qu'il était missionnaire. Fait qu'il a fini sa vie, pasteur, mis à la porte de l'Église, missionnaire, mort des conséquences d'un vaccin sur un test. Là, tu dis, OK, Dieu, c'est ton histoire. C'est ton histoire. Pourtant, un des plus grands théologiens de l'histoire de l'Église, puis une des personnes que Dieu a utilisé le plus puissamment à travers les réveils. D'accord? Un de ses sermons, Sinners in the Hand of an Angry God, les pécheurs entre les mains d'un Dieu en colère, c'est un des sermons les plus connus de l'histoire de l'Église. Donc, on peut apprendre de l'humilité en étudiant de l'histoire de l'Église. L'histoire, évidemment, peut nous encourager, on l'a dit, peut nous apporter des modèles. J'ai aimé deux acétates plus loin. Là, j'ai une drôle d'acétate avec une chaîne et un papillon. Juste après, je crois. Oui. J'ai aimé cette image-là. Un de mes amis, Stéphane Gagné, qui est prof d'histoire, m'envoie du matériel sur l'histoire de l'Église en préparation. Puis, l'histoire de l'Église nous libère aussi de la tyrannie du présent. Nous, on est dans le moment présent, puis là, on dit, oh, OK, c'est ça qui se passe à l'Église, c'est ça qui se passe dans ma vie, où est-ce que je m'en vais, est-ce que je suis en train de grandir. Puis là, tu étudies l'histoire de l'Église, puis t'as comme, moi, j'ai l'impression un petit peu de toucher à Dieu, puis de dire, Dieu est à l'extérieur du temps, là. Panique pas. Il est en train de faire son affaire. Tu es en train d'accomplir ses desseins. Calme-toi, Yannick. Tu es un grain de sable dans toute cette chaîne-là. Fais juste t'appliquer à suivre le Seigneur Jésus-Christ et à le glorifier dans ta vie. Il est en train d'écrire son histoire. Et ça te sort du moment présent où tu peux paniquer. Comme je dis, l'histoire au Québec, si Shinicky, connaissez-vous Shinicky? Charles Shinicky? On le verra vite là, vers la fin du cours. Si on s'était fié au moment où Shinicky a dû quitter le Québec parce qu'il était persécuté, bien on se serait dit, ah, c'est fini l'histoire de l'Évangile au Québec, ça s'arrête là. Et pourtant, l'Évangile n'a jamais été aussi présent que maintenant au Québec. D'accord? Nous, on voit le travail qui reste à faire, mais il y a eu plus d'une vague d'évangélisation au Québec. On va survoler ça rapidement à travers le cours. Évidemment, comme on l'a mentionné, à la prochaine acétate, vous avez John Bunyan. L'histoire de l'Église nous procure des modèles. Alors, ce matin, on commence avec la période de, tout de suite après la fin du livre des Actes, je vous dirais. Le christianisme est né dans un contexte sociopolitique particulier qui avait des avantages évidents puis des désavantages aussi, mais c'était un contexte particulier. Le christianisme est né au milieu de l'Empire romain, d'accord? Un moment où la Palestine fait partie de l'Empire romain et cet empire-là domine entièrement. Pour vous donner une idée de la grandeur du territoire de l'Empire romain au moment de la naissance du christianisme, c'est aussi large que les États-Unis. Ça vous donne une idée? Ça, c'est l'Empire romain. C'est le plus grand empire du monde connu à ce moment-là. On peut aller à la prochaine acétate. Vous avez une carte qui donne un petit peu une perspective. Vous avez la Méditerranée. Alors, vous voyez l'Espagne, la France, complètement à gauche, et complètement à droite, vous avez la Syrie. Tout ce qui est enfoncé, ça, c'est l'Empire romain. D'accord? Au moment où le christianisme naît, l'Empire romain n'est plus une république. C'est un empire avec un empereur qui est en train de diriger l'empire, littéralement. Les jeux politiques qui devaient amener au renversement de la République pour l'installation d'un empereur sont faits et maintenant on a un empereur qui est en train de dominer tout l'empire. Moi, juste voir des petits éléments à mentionner. La population de cet empire-là, on estime, les historiens estiment que la population était environ de 50 millions d'habitants. C'est énorme, c'est gros. Tous regroupés dans un même empire, avec une monnaie, avec un gouvernement, avec un système de route, avec un système militaire, c'était absolument énorme. Tout à l'heure, on va mentionner quelques avantages que ça donnait justement pour l'expansion de l'Évangile. J'ai quelques images à vous donner pour nous donner une perspective un peu. On a un aqueduc tout de suite ici. Ça, c'est des constructions romaines. Le port de Césarée en Palestine qui a été reconstitué par dessin, mais qui nous donne une bonne idée aussi de sa grandeur. Les mosaïques de Carthage, là, on est en Afrique. Alors, on se promène un petit peu, là. Là, on arrive en Afrique. C'est absolument superbe. Le mur d'Adrien qui est en réalité en Angleterre. Un très, très long mur qui visait à diviser peut-être que j'ai pas exactement les mêmes. Oui, c'est ça, le mur d'Adrien. Le mur d'Adrien qui visait à diviser la partie qui avait été conquise par Rome et la partie qui était aux barbares et qui visait à protéger les colonies romaines. Un extrêmement long mur. Alors, ça c'est le contexte très rapidement, là, géopolitique, si on peut dire. Rome domine. Rome est en paix. Rome va être en paix pour à peu près 200 ans. Et c'est dans ce contexte-là que l'Évangile arrive en Palestine. D'accord? Maintenant, c'est une période aussi d'ouverture et de réflexion. Alors, c'est une période où il y a, au niveau des religions, on parle d'un panthéon. Ça veut dire que Rome adoptait énormément de divinités. Rome avait comme habitude, lorsqu'il faisait la conquête d'un nouveau territoire, de trouver un moyen ou un autre pour intégrer les nouvelles divinités. D'accord? Souvent, ils allaient changer le nom de ces divinités-là. C'est ce qu'ils ont fait avec la majorité des divinités grecques. Ils changeaient le nom de ces divinités-là pour les romaniser, mais ils les intégraient en même temps, ce qui permettait au peuple conquis de dire « Ah, OK, on fait partie de la gang, puis on est là. » Et ce que ça donnait, c'est vraiment, tu avais un panthéon, tu avais énormément de dieux, ils adoraient beaucoup Dieu. En même temps qu'ils étaient en train de... que ça, c'était très présent, on a l'apparition et le développement des philosophies. Et donc, il y a des philosophes, des penseurs qui apparaissent, qui ne s'opposent pas aux dieux, mais qui veulent avoir une pensée à côté. Et un autre des éléments qui était très présent aussi, c'est ce qu'on appelait les religions à mystère. C'était des sectes, généralement, qui croyaient que par des pratiques mystérieuses, tu pouvais avoir des connaissances mystiques. Le gnosticisme va sortir de là. D'accord? Alors, c'est le genre de pratique que vous avez vu des fois dans des films où ils vont faire des sacrifices étranges, puis ils vont rentrer dans des transes, puis à travers ça, ils vont avoir une gnose, une connaissance. C'était des religions à mystère et ils recevaient des révélations. Le christianisme va être associé à ça. Les gens vont voir ça un peu comme la même chose, certains d'entre eux, puis ils vont prendre une partie de ce que les Écritures enseignent. Donc, on avait Panthéon, une multitude de dieux. On avait les philosophies qui étaient présentes et puis on avait les religions à mystère qui étaient présentes à cette époque-là. C'est dans ce contexte-là que le christianisme arrive. Le judaïsme, d'accord, le judaïsme, les juifs étaient répandus dans un peu partout dans l'Empire. À travers les déportations, ils avaient déjà commencé et il y avait des juifs un peu partout dans l'Empire. Le judaïsme avait ceci de particulier, c'est qu'ils sont monothéistes, d'accord? Et donc, les Juifs croyaient en un seul Dieu. Et ça attirait énormément l'attention des Romains à l'époque. Les Romains étaient attirés, leur curiosité était piquée par ça. Est-ce que vous avez déjà lu un petit peu sur les mythologies grecques? Vous connaissez les histoires d'amour, les conflits, les chamailleries, les meurtres entre les dieux grecs, puis lui était marié avec lui, puis lui s'est battu avec lui, puis non? Ça, c'est l'histoire des divinités grecques, puis c'était l'histoire des divinités romaines. Et donc, à vue d'homme, ces dieux-là étaient pas mal humains. Il avait des super pouvoirs, mais en même temps, il était aussi mesquin, puis aussi, c'est ça, querelleur que l'être humain peut l'être. Quand le judaïsme arrive avec l'idée d'un seul Dieu, créateur de l'univers entier, un seul Dieu saint et parfait, oups, ça les attire. Un Dieu qui n'est pas humain comme toute leur divinité. Un Dieu qui n'est pas limité à être le Dieu de la terre, ou le Dieu du ciel, ou le Dieu de l'eau, mais un Dieu qui domine. Et donc, il y avait pas mal de gens qui étaient intéressés, qui étaient curieux. Certains se convertissaient, d'autres étaient des sympathisants. Et comme je vous dis, il y avait des Juifs qui étaient répandus partout dans l'Empire. Il y avait des synagogues dans toutes les grandes villes de l'Empire. Les synagogues, c'était cet endroit où les Juifs se réunissaient, puisque le temple était à Jérusalem. Ils se réunissaient dans une synagogue s'ils habitaient à Rome, par exemple. Ils allaient à la synagogue et c'est là qu'ils lisaient la loi, c'est là qu'ils faisaient des prières, c'est là qu'ils recevaient des enseignements. Et donc, il y avait des sympathisants romains qui étaient intéressés par ce Dieu unique, qui voulaient en entendre parler davantage et qui allaient assister dans ces synagogues pour recevoir ces enseignements. Ce qui donnait un contexte favorable à l'arrivée du christianisme. Est-ce que vous êtes capable d'imaginer d'autres avantages, si on pense au contexte géopolitique, là, quels seraient les avantages de ce contexte-là pour que le christianisme puisse se répandre rapidement dans l'Empire? Est-ce qu'il y a des choses qui vous passent par la tête? OK. Oui. Ça, c'est extrêmement important. La Pax Romana, c'était la paix. Comme j'ai dit tantôt, il y avait à peu près 200 ans de paix. Et donc, pendant cette période-là, il y avait énormément de sécurité à l'intérieur de l'Empire. Oui. Alors, on avait une langue unique qui nous venait des Grecs, qui avait été récupérée par les Romains. Si vous parliez grec, vous pouviez vous rendre n'importe où dans l'Empire. Plus vous alliez vers le nord, plus c'était le latin, mais vous pouviez vous rendre à peu près n'importe où dans l'Empire et communiquer avec les gens. Un peu comme aujourd'hui, on dirait, ben, si tu parles anglais, tu peux aller à peu près n'importe où sur la terre, tu vas réussir à te faire comprendre. Une langue unique, la Pax Romana, qui était cette paix dans tout l'Empire, qui favorisait une circulation libre. D'accord? Puis ça s'est passé pendant un court laps de temps, ça a été pendant quelques siècles. Pendant quelques siècles seulement. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on arrive au Moyen Âge, ça n'existe plus, ça. Si vous êtes, par exemple, en France, au Moyen-Âge, pendant de très, très longues périodes, il n'y a aucune sécurité sur les routes. Il y a des brigands partout, et tu vis dans ton fief, tu vis dans ton village sous la protection d'un seigneur, puis s'il faut se déplacer pour aller ailleurs, il faut que tu sois escorté militairement. Tu ne pourras pas faire ces déplacements-là sans te faire attaquer par des brigands, parce qu'il n'y a pas de sécurité. Et par exemple, certains territoires, certains pays qui sont en conflit actuellement dans le monde vont vivre ça. Il y a des petits seigneurs qui dominent sur des territoires et si tu veux passer d'un territoire à un autre à l'intérieur d'un même pays, il va falloir que tu payes, il va falloir que tu t'arranges pour pouvoir passer. Il n'y a pas de sécurité générale. Nous, on embarque dans notre voiture ici puis on dit, bon, mais pour les fêtes, on va descendre en Gaspésie. On s'en va comme ça en Gaspésie. Pendant la paix romaine, il y avait une relative sécurité à travers tout cet empire-là. Donc, vous avez un territoire aussi large que les États-Unis où on peut circuler librement. Il y a des routes de fait. Les routes sont pavées. C'est des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de milles qui sont pavées avec des pierres qui permettent une circulation rapide. Les Romains faisaient toujours ça pour la guerre. Alors, lorsque les Romains décidaient de faire la conquête d'un nouveau territoire, une partie de leur effectif était consacrée, de leurs énergies, était consacrée à construire les routes pour après ça pouvoir faire des déplacements rapides. Imaginez contrôler, sécuriser un territoire aussi grand que ça. Il faut que tes militaires puissent se déplacer très, très rapidement. Mais après ça, ça servait pour le commerce, ça servait pour les citoyens, ça servait pour les chrétiens. D'accord? Donc ça, c'est un autre facteur. La sécurité sur les routes, la sécurité navale. À l'intérieur de la mer Méditerranée, tout à l'heure, on a vu l'Empire est vraiment autour de cette mer-là. Il y avait une relative sécurité qui faisait que tu pouvais voyager en t'attendant à ne pas être attaqué par des pirates. D'accord? Alors ça, c'était des facteurs. Le courrier, les routes, la langue commune, la paix relative dans le milieu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, au début du christianisme, le christianisme a été comme caché derrière le judaïsme. Pendant environ un siècle, les observateurs extérieurs pensaient que les chrétiens, c'était juste une secte juive. Et les Juifs avaient la sympathie, généralement, de l'Empire. Et donc, le christianisme était caché derrière ça. Ça nous donnait une possibilité de pouvoir annoncer l'Évangile. Les synagogues qui étaient partout. Alors, dans le Nouveau Testament, vous vous rappelez la stratégie de Paul. Il arrivait dans une ville. S'il y avait une synagogue, il s'en allait à la synagogue. S'il n'y avait pas une synagogue, il cherchait le lieu de prière des Juifs. Ah, les Juifs, le samedi, ils se réunissent là-bas près d'une rivière. OK, c'est là que je vais aller. Parce que là, il va y avoir les Juifs, puis il va y avoir les sympathisants juifs qui vont être là. Et puis, je vais annoncer l'Évangile là. Il y avait des synagogues partout. Alors, tout à l'heure, j'ai lu dans Actes, première persécution, dispersion de l'Église à travers l'Empire. Pouf! Les chrétiens se répandent à travers l'Empire. Ils se poussent de Jérusalem. Ils vont aller connecter avec des synagogues, ils vont aller entrer en contact avec des Juifs, ils vont commencer à répandre l'Évangile. D'accord? C'était vraiment un moment choisi par Dieu pour que l'Évangile puisse avoir toute son expansion. Quand on étudie l'histoire de l'humanité, Dieu avait, comme on dit en français, un timing extraordinaire pour amener Jésus-Christ à naître. Et puis après ça, pour que l'Évangile puisse se répandre d'une manière très, 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 très rapide. Parce qu'il y avait des bonnes circonstances pour que ça se produise. Quelques images encore rapidement. C'est ça. Au niveau de l'archéologie, on trouve beaucoup de traces des chrétiens de l'époque. Si tu peux aller un petit peu plus loin, j'en ai un qui s'appelle baptistère chrétien. Ça va vous intéresser. C'est un baptistère. Le bain qui est là, c'est un baptistère chrétien parce que les images qui sont sur le mur, ce sont des images qui parlent du christianisme. Et donc ça, par exemple, dans une maison de riche, c'était un endroit où on baptisait. Les gens se réunissaient. Vous savez, lorsqu'on lit dans le Nouveau Testament, les gens qui se réunissaient chez Philémon, par exemple, d'accord? Mais c'est ça, ils se réunissaient généralement dans une maison de quelqu'un qui avait plus de moyens, qui avait une grande cour arrière, qui avait peut-être les moyens de construire un baptistère comme ça, et puis c'est là qu'on baptisait les gens. C'est pas un bain romain, puisqu'on a plein d'écrits chrétiens qui sont autour. Et donc, le christianisme s'est inscrit rapidement dans l'histoire romaine. Dans les 150 premières années, le christianisme a eu une période de progression et de croissance extraordinaire. À un certain moment donné, là, tantôt on va parler des persécutions, Rome a commencé à remarquer les chrétiens parce que, oups, c'était plus juste une secte juive, cette affaire-là. C'était une foi en propre qui était à côté. Et le christianisme a eu une progression très, très, très rapide. Il y a un auteur chrétien qui dit, j'ai une citation, « Croissance rapide de l'Église ». En 150, il y a un auteur chrétien qui a écrit ceci à l'empereur, une lettre qu'il écrivait à l'empereur, d'accord, dans les périodes de persécution. « Nous avons rempli vos cités, vos forteresses, vos villes, vos camps militaires, le palais, le sénat, le colisée. Nous ne vous avons laissé que vos temples. » Les chrétiens étaient partout. Il y avait beaucoup de gens des classes pauvres qui se convertissaient. On va aller à une acétate un petit peu plus loin, pourquoi les gens se tournaient vers le christianisme. Mais avant de l'aller, faites juste me donner des idées. D'après vous, qu'est-ce qui pouvait attirer des Romains à se convertir au christianisme? Nous, on sait que les gens se convertissent parce que l'Esprit de Dieu les attire. Mais humainement, là, quand quelqu'un arrive ici, là, il ne va pas te dire « Ah! » Ce matin, c'est le Saint-Esprit qui est, tu sais, un nom chrétien, le Saint-Esprit qui, je ne sais pas pourquoi je suis ici. Non, il y a une raison, il a entendu parler qu'on faisait des bonnes œuvres, quelque chose, je ne sais pas. Qu'est-ce qui pouvait attirer les gens au christianisme à l'époque, d'après vous? Oui, André. La bonté de Dieu qui se manifeste quoi? Dans leurs actions concrètement, dans leur manière... dans leurs paroles, dans leurs actions. La charité des chrétiens était énormément remarquée. Il y a une période à Rome où il y a eu une invasion de peste très, très forte. Et les chrétiens sont ceux qui, comme groupe connu, ont été le plus nombreux à rester sur place. D'accord? Pour soigner les gens qui n'étaient pas chrétiens. Alors, la charité chrétienne était énormément remarquée. Il y avait Louise puis Élie. Oui, peut-être par curiosité. Peut-être par curiosité. Élie? OK, ça, c'est extrêmement important. D'accord? L'égalité, je m'excuse. L'égalité, plus riche et pauvre, homme, femme, tous sont des prêtres. D'accord? Et ça, c'est un élément extrêmement important. Dans l'Empire romain, la femme avait déjà plus de place qu'avant. D'accord? Mais là, tu arrives dans l'Église... Puis, on dit, homme, femme, on est tous les deux, on a tous les deux le même accès à Dieu, on a tous les deux la même communion avec Dieu, on a tous les deux la même relation avec Dieu. L'Empire romain, sa force de travail, c'était l'esclavage. D'accord? C'était les esclaves. Ça, c'était sa force de travail. Alors, imaginez l'attrait pour un esclave grec. Puis, souvent, les esclaves étaient plus instruits que leur maître. D'accord? Rome, c'était une force militaire. C'était pas au départ une force de philosophe. C'était une force militaire. Ils arrivent, conquièrent tout le territoire de l'Empire grec, par exemple. Et là, ces gens-là sont très instruits, les Romains le sont moins. Ils prennent possession du territoire, font d'eux leurs esclaves, puis ils disent, tiens, toi, tu tiens mes comptes maintenant. Toi, tu t'occupes de ma comptabilité. Toi, tu vas être mon secrétaire. Tu sais écrire, moi, je ne sais pas écrire. Sois mon secrétaire. Alors, vous avez des esclaves qui, souvent, étaient même plus instruits que leur maître, leur propriétaire. Et là, il y a quelqu'un qui arrive en ville, qui commence à annoncer, Dieu veut sauver tous les hommes. Dieu veut sauver toutes les femmes. Et tous ceux qui croient en Jésus-Christ, sont fils de Dieu. Il n'y a pas d'aristocratie, il n'y a pas d'élite. Dieu veut sauver tous les hommes, Dieu veut sauver toutes les femmes. Alors imaginez l'attrait pour un esclave grec, d'accord, qui voit son maître, par exemple, ou sa maîtresse qui commence à s'intéresser à l'Évangile, puis là, sa maîtresse est en train d'écouter, puis imaginons Paul qui est en train d'annoncer l'Évangile, puis le serviteur est là aussi. Mais là, après ça, Paul va voir la dame puis lui dit, écoute, la prochaine fois que je vais venir, ça serait bien qu'il puisse entendre l'Évangile. Il a besoin d'être sauvé, lui aussi. Non, mais c'est parce qu'il est en train de préparer le lunch. Oui, mais il a besoin de l'Évangile, lui aussi. Fait que la fois d'après, Paul est là puis il enseigne à la propriétaire, aux propriétaires puis aux esclaves, tout le monde est ensemble. Ils se convertissent. C'est lui qui tient les comptes. C'est lui qui tient les livres. Ils se convertissent, ce monde-là. Ils arrivent dans l'église. Un an plus tard, c'est qui enseigne en avant? C'est l'esclave. C'est lui qui enseigne en avant, c'est lui qui est instruit. Il est en train d'enseigner son maître. Après ça, ils s'en retournent à la maison ensemble puis ils inversent les rôles. Si vous lisez l'histoire de la lettre à Philémon, c'est ça. Une partie de l'histoire est là. D'accord? Alors, c'était très attirant à cause de cette notion d'égalité qui était là. D'autres raisons pour lesquelles l'évangile, le christianisme pouvait être attirant à l'époque. Le salut par grâce. La promesse de la vie éternelle par grâce. Tu n'as pas à faire d'autres sacrifices, tu n'as pas à faire d'autres œuvres. Tu places ta foi en Jésus-Christ et tu as une promesse affirmée de la vie éternelle. Peut-être qu'on peut aller à l'acétate, s'il te plaît, Sylvie. L'avant-dernier, chaque personne le christianisme promet la victoire du bien sur le mal. Alors, à l'époque, dans les philosophies, cette idée de bien et de mal était très présente. Le christianisme annonce que Christ a vaincu le mal et que cela peut se refléter dans ta vie personnelle. Christ a vaincu le mal. Et puis, en dernier, le témoignage des chrétiens à travers les persécutions. Le témoignage des chrétiens à travers les persécutions a eu un impact énorme sur les conversions des gens. D'accord? Il y a énormément de gens qui se sont convertis en regardant comment les chrétiens se comportaient à travers les persécutions. Et ce n'était pas des persécutions comme on parle ici, là. On parle vraiment de souffrance et de mise à mort. Alors, c'est sûr que c'est la grâce de Dieu qui a amené tous ces gens à se convertir, mais les chrétiens avaient un témoignage puissant. La charité était évidente. Chaque croyant était traité comme un individu qui a une communion personnelle avec Dieu. Chaque personne, chaque individu est important. Chacun reçoit des dons de Dieu. D'accord? Et chacun est appelé à les mettre au service de Dieu. Le christianisme promet la victoire du bien sur le mal. Il y a une promesse de vie éternelle. Et les chrétiens ont eu un témoignage exemplaire à travers les persécutions. On va parler un peu des persécutions romaines pour terminer ce matin. Jusqu'en l'an 300 environ, il n'y a pas eu de paix véritable pour les chrétiens. D'accord? Pendant ces 300 premières années-là, dans le meilleur des cas, les chrétiens passaient incognito. Faisaient leur petite affaire, prêchaient l'Évangile, annonçaient l'Évangile, voyaient des gens se convertir, et puis les gens venaient au Seigneur, tout ça. Dans le pire des cas, ils étaient trop remarqués, trop dérangeants, puis ils étaient persécutés. La majorité des persécutions étaient des persécutions locales. C'est rare que l'empereur décrétait une persécution sur tout, décrétait qu'il fallait éliminer les chrétiens sur tout l'empire. D'accord? C'est arrivé à quelques reprises. Généralement, c'était des gouverneurs locaux qui étaient dérangés par ces gens-là puis qui décidaient de s'en prendre à eux. Mais pendant les 300 premières années, le christianisme n'a jamais été une religion tolérée. Jamais. Alors nous, on vit une époque extraordinaire au niveau de notre liberté. D'accord? On vit une époque extraordinaire au niveau de notre liberté. Parce qu'on est non seulement toléré, mais on a des droits. On a des droits constitutionnels, non pas comme chrétiens, mais des droits dans la charte de liberté qui permettent de pratiquer la foi. Pendant les 300 premières années, le christianisme n'a jamais été officiellement une religion tolérée et acceptée. C'est juste à la fin de ces 300 ans-là. Alors pendant cette période-là, il va y avoir environ 10 persécutions officielles au cours des 3 premiers siècles, puis des dizaines de persécutions beaucoup plus locales, beaucoup plus limitées. Je ne sais pas si on va bien voir sur l'image juste avant. C'est pas super clair. Hein? Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est comme un graffiti de l'époque qui avait été fait où on était en train de se moquer des chrétiens. Puis vous avez un chrétien, je ne sais pas si vous voyez quelqu'un avec une tête de cheval là, qui est comme ça. C'est un chrétien qui est dépeint là. D'accord? C'est un âne qui est crucifié. Et c'est une manière de mépriser, de se moquer des chrétiens. Qu'on trouve des traces de cette haine-là contre le christianisme. Tout à l'heure, on va parler un petit peu des raisons qui pouvaient amener les gens à détester les chrétiens. J'ai plusieurs images des persécutions. Je vais juste vous mentionner quelques éléments. Généralement, lorsqu'on décidait qu'on éliminait les chrétiens, on n'allait pas à leur maison puis on les mettait à mort. On leur demandait de renier la foi. D'accord? Alors, on les prenait, on les enlevait, on les amenait, ils étaient séquestrés. Puis là, on leur posait la question, est-ce que tu renies ta foi? Et l'idée de renier de sa foi, tout ce que tu avais à faire, c'est que tu devais poser un acte d'adoration envers l'empereur. D'accord? Parce qu'assez rapidement dans l'Empire, comme dans d'autres systèmes, par exemple en Égypte, le pharaon était un demi-dieu, mais dans l'Empire romain aussi, une manière d'unifier l'Empire, c'était de demander que tout le monde voue un culte à l'empereur. Tu pouvais avoir tous tes autres dieux, mais il fallait aussi que tu adores l'empereur. Le problème pour les chrétiens, c'est que tu adores personne d'autre que Dieu. D'accord? Alors, on rentrait dans les maisons, on enlevait les gens, puis on leur posait la question, est-ce que tu renies le christianisme comme la seule foi? Et est-ce que tu es prêt à poser un geste d'adoration pour offrir un culte à l'empereur? Évidemment, la majorité des chrétiens refusaient de faire ça, d'accord? Et à ce moment-là, il y avait des tortures qui commençaient. Et bon, vous avez tous vu des films sur l'Empire romain, tout ça. On joignait l'utile à l'agréable dans la perspective de l'Empire et on servait des chrétiens pour les jeux, d'accord? Pour donner des spectacles. Et donc, ces gens-là étaient massacrés des pires manières que vous pouvez imaginer, là. Si jamais vous lisez le précis d'histoire de l'Église, vous prendrez le temps d'aller lire l'histoire de Blandine. Il y a un rappeur québécois, Chrétien Garizim, qui a fait une chanson sur Blandine. Là. C'est génial. J'aurais jamais espéré entendre ça en rap québécois. Là. Mais Blandine, c'est une histoire pathétique, une histoire triste. Puis pourtant, une femme qui a tenu jusqu'à la fin. Je ne rentrerai pas dans les détails, okay, de ce qu'il faisait comme... Je sais qu'il y a des gens qui sont fragiles ici sur ça, là, mais c'est les pires atrocités que vous pouvez imaginer. Puis ça durait sur plusieurs jours, parce qu'on voulait étirer le plaisir, étirer les jeux, et puis voir si la personne n'allait pas se rétracter à un certain moment donné dans le processus. Mais on a récit après récit après récit de chrétiens qui terminaient là en train de mourir, et qui est en train de rendre l'âme, qui est encore en train de chanter des louanges. Ce que vous voyez avec Étienne, ce n'est pas exceptionnel. D'accord? Le récit d'Étienne, là, qui est en train de louer Dieu au moment où il est en train de mourir, peut-être que les visions, c'est exceptionnel, mais ça, ça n'a rien d'exceptionnel. Il y a des milliers de chrétiens qui sont morts comme ça, tout simplement en louant Dieu. En même temps, ce que ça faisait les persécutions, c'est que constamment, ça obligeait les chrétiens à se déplacer dans l'Empire. Constamment en train de se déplacer, se relocaliser, donc en train de répandre l'Évangile. C'est ça qu'ils sont en train de faire à chaque fois. D'accord? À plusieurs reprises, évidemment, ça a été les chefs de l'Église qui ont été martyrisés. On espérait qu'en éliminant le chef de l'Église, on puisse éliminer carrément le christianisme dans une région. Ça ne fonctionnait pas. Une des persécutions les plus connues, c'est le feu à Rome. Quelqu'un qui a déjà entendu parler de ça, le grand incendie de Rome et comment Néron a essayé de se sortir de cette situation-là. Alors, il y a un feu immense, probablement un feu criminel. Les historiens essaient de comprendre, là, analyser, puis à quelle vitesse le feu s'est répandu. Puis on a des récits qui nous disent dans quel secteur de la ville il a commencé, vers où il s'est dirigé, à quelle vitesse s'est répandu, tout ça. Probablement un feu criminel, peut-être un feu qui a été parti par des hommes de Néron, c'est pas impossible. Mais Néron va jeter le blâme sur les chrétiens, d'accord? Et il va dire ce sont les chrétiens qui ont fait ça. Et lorsqu'on voulait parler contre les chrétiens, bien, on les accusait de différentes choses. Si on peut aller à l'acétat de calomnie contre les chrétiens. On accusait les chrétiens de se livrer au plaisir, d'être contre l'Empire, d'être débauchés, et on les accusait de cannibalisme. D'accord? Maintenant, c'est des gens qui ne connaissaient pas le christianisme, qui étaient à l'extérieur, qui ne côtoyaient pas vraiment des services chrétiens. Et effectivement, le christianisme fait la promotion de l'amour, d'être heureux. Pourquoi est-ce qu'ils disaient qu'on était contre l'Empire, que les chrétiens étaient contre l'Empire? Bien, ils ne voulaient pas adorer l'Empereur. Et donc, ils travaillaient contre l'unification de l'Empire. Ils les accusaient de débauche, d'après vous. Ça, c'est spécial un petit peu. Pourquoi est-ce que les chrétiens étaient accusés de débauche? Si tu te maries avec ta sœur, est-ce que ce n'est pas un acte incestueux? Les maris chrétiens appelaient leur frère, leur épouse, leur sœur dans le Seigneur, puis leur frère dans le Seigneur. Fait qu'ils étaient accusés de débauche parce qu'il y avait des rapports incestueux. C'est vrai, là. C'est des éléments historiques que je vous dis. Ils étaient accusés de cannibalisme. Celle-là, vous le devinez, c'est pourquoi? À cause du repas du Seigneur, parce que nous, on mange notre Sauveur à chaque fois. N'est-ce pas? Hein? Alors, ils étaient accusés de cannibalisme. Et ils buvaient du sang. C'est des buveurs de sang, les chrétiens. Parce que dans leur rite, ils doivent boire du sang. Non, ils buvaient du vin. Mais c'est ça. Alors ça, c'était des choses qui faisaient circuler contre les chrétiens pour pouvoir les accuser. On va aller deux acétates plus loin, le grand incendie de Rome. Néron attribua cet incendie aux chrétiens. Maintenant, un historien de l'époque, pas chrétien, Tacite, rejette cette thèse-là, puis il accuse Néron plutôt. Alors il dit tout ce qui était dit contre les chrétiens, puis Tacite ne parle pas en bien des chrétiens, je pense qu'ils n'aimaient pas vraiment. Il dit que c'était des gens qui haïssaient Rome et tout ça. Mais Tacite dit non, c'est pas les chrétiens qui ont fait ça. C'est Néron, il a juste essayé de jeter le blâme sur eux. J'ai mentionné les éléments pour la prochaine acétate. On va aller au grand incendie de Rome en 64. Alors ça se passe en 64. Ça a été un des moments de persécution les plus intenses. Néron fait arrêter, torturer, brûler, livrer aux animaux énormément de chrétiens. Il ouvre ses jardins personnels où il a installé des crucifiés. Ils allument des chrétiens le soir. Okay? Littéralement. Ils pendent des chrétiens, mettent de l'huile, ils les allument pour éclairer des routes. Okay? Fait que ça, pour vous donner une idée, là, on n'est pas en train de parler de petites affaires. Et c'est ça. Ils accusent les chrétiens d'avoir... haï Rome puis d'avoir essayé de détruire Rome. Si vous regardez derrière votre feuille, vous avez juste une petite idée des persécutions. Vous avez les empereurs qui sont là. En fait, là, allez à l'avant-dernière page. Les persécutions vont s'arrêter avec Galère à la fin, le point 4 au bas de la page, d'accord? Alors, Valérien va arrêter les persécutions à un certain moment donné. Après avoir commandé des persécutions, il va arrêter les persécutions. Dioclétien va les recommencer. Et puis, Galère va essayer d'éliminer les chrétiens pour de bon. Là, il donne une directive. Il dit, on élimine cette racaille-là de l'Empire complètement. Et évidemment, il faut comprendre que si le christianisme est en train de se répandre un peu partout, l'Empire a peur d'être pris en contrôle par les chrétiens. D'accord? D'être renversé par les chrétiens. Galère va faire ces persécutions-là, si je ne me trompe pas, je ne vais pas vous induire en erreur, pendant une vingtaine d'années. Et puis, après cette période-là, il se rétracte complètement. Parce qu'il se rend compte qu'il est incapable de les éliminer. Incapable de les éliminer. Les chrétiens continuent, veulent pas renier Christ. Ils se laissent massacrer. Ils ne se révoltent pas militairement. Il n'y a jamais de coup militaire de la part des chrétiens. Ils se laissent persécuter. Et donc, après cette période-là, Galen va se rétracter complètement et il va ordonner à partir de ce moment-là qu'on tolère cette religion-là. Il donne l'ordre que la religion chrétienne soit tolérée et il demande aux chrétiens de prier leur Dieu pour le bien de l'Empire. D'accord? Maintenant, autour de ces périodes-là, à un certain moment donné, il va y avoir une période de repos sans persécution de 40 ans. Les historiens nous disent que juste avant d'entrer dans cette période-là, le christianisme avait presque été disséminé de l'Empire. Alors, l'Empire a arrêté parce que Dieu a décidé qu'il protégeait son Église. Et l'Empire a arrêté parce qu'il croyait qu'ils ne réussiraient pas à éliminer les chrétiens. Mais d'après les décomptes, les informations des historiens qu'on a, à ce moment-là, ils avaient presque réussi à éliminer le christianisme de l'Empire. Et une des leçons qu'on doit retenir de ça, c'est que les chrétiens qui prient légèrement en disant « Seigneur, envoie-nous des persécutions », ne savent vraiment pas ce qu'ils disent. C'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. Oui, Dieu fait des choses extraordinaires dans ces périodes-là. Oui, Dieu est pur, son Église, dans ces périodes-là, c'est vrai. Mais ce sont des périodes extrêmement difficiles. L'apôtre Paul, qui en a vécu, lui dit « Non, priez pour que vous puissiez vivre votre foi en paix. C'est ça que vous devez prier. » Moi, je sais c'est quoi les persécutions, c'est ça que vous devez prier. Priez pour pouvoir vivre votre foi en paix et librement. Mais il va y avoir une période de 40 ans de répit pour le christianisme. Et cette période-là va devenir une période de croissance très, très, très rapide pour le christianisme. Les chrétiens vont se répandre à ce moment-là partout dans l'Empire. Et le christianisme va grandir énormément. Et on arrive à ce moment-là, en 300 environ, au moment où Constantin va décider de déclarer officiellement le christianisme comme une religion légale dans tout l'Empire. Et la semaine prochaine, on va rentrer dans cette partie-là. Je vais terminer avec une citation de Tertullien. Il y avait des... malheureusement, dans le survol, il faut aller très rapidement. Je n'ai pas le temps de voir beaucoup des pères apologètes, puis des gars qui allaient... Les gens, à l'époque, écrivaient des lettres à l'empereur. Ils écrivaient un livre, puis ils dédicaçaient le livre à l'empereur directement. D'accord? En réalité, c'était adressé à tout le monde, ça allait circuler, mais c'était adressé à l'empereur. Tertullien a été un des gars, un des plus ardents défenseurs du christianisme. C'était des gars qui faisaient un peu comme une job d'avocat, qui allaient défendre sur la place publique, puis débattre tout ça. Et Tertullien a une super citation, il dit « Le sang des martyrs est la semence des chrétiens, les martyrs font jaillir de nouveaux chrétiens. » Il dit « Plus vous nous éliminez, plus vous nous mettez à mort, quand notre sang coule, les gens se convertissent. » Parce que les gens voyaient le témoignage des chrétiens à travers cette période-là. Alors les 300 premières années, ça a été une période que Dieu avait choisie, que Dieu avait préparée avec la paix romaine pour que le christianisme puisse se répandre dans tout l'Empire très, très rapidement. Ça a été une période où le christianisme n'a jamais été une religion officielle pendant toute cette période-là. Alors, dans le meilleur des cas, les chrétiens étaient ignorés et pouvaient faire leur petite affaire. Dans le pire des cas, ils étaient remarqués puis ils étaient persécutés. Mais ils n'avaient jamais les faveurs de l'État. D'accord? Nous, on peut apprécier d'avoir la liberté d'annoncer l'Évangile. On vit au Québec, on sait que c'est facile de rire des chrétiens dans les médias, c'est facile de se moquer des chrétiens dans les médias, de nous faire passer pour des arriérés, tout ça. C'est vrai. Mais honnêtement, ça s'arrête à peu près à ça. Ça s'arrête à quelques moqueries, d'accord? Nous avons la liberté d'annoncer l'Évangile. Constamment, à tout moment. Dès qu'il y a eu un moment de paix, dans cette époque-là, l'Évangile a commencé à se répandre. Alors qu'on puisse avoir le courage, nous, pendant qu'on a cette liberté-là, d'annoncer l'Évangile constamment autour de nous. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour l'histoire de l'Église. Merci pour ta protection, Seigneur, pendant ces 300 premières années. Des milliers, des milliers, des milliers de Romains se sont convertis au christianisme dans une période difficile, Seigneur. Et pourtant, une période glorieuse où tu as conquis des cœurs, tu as élargi ton territoire, tu as préparé des missionnaires qui allaient sortir du territoire de l'Empire romain, Seigneur. Merci pour ta protection. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour ces milliers de chrétiens qui ont tenu bon, qui ont affirmé la foi, Seigneur, qui ont refusé de renier leur foi, Seigneur, qui ont regardé à toi et qui ont préféré mourir pour aller te voir que de conserver leur vie. Littéralement, ils ont appliqué, Seigneur, ta parole et ils ont considéré te connaître et ta voix plus précieux que de garder, de posséder leur propre vie, Seigneur. Seigneur Jésus, enseigne-nous. Alors que nous n'avons pas à souffrir comme ça, enseigne-nous à mourir à nous-mêmes. Enseigne-nous à renoncer à notre propre vie pour pouvoir vivre pour toi, Seigneur. Et puisqu'on n'est pas entouré de lions, on n'est pas, Seigneur, menacé d'être torturé, d'être mis à mort, donne-nous le courage de parler de toi, Seigneur Jésus. Ne serait-ce, Seigneur, que pour honorer la mémoire de ces milliers de frères et sœurs qui ont eu le courage de persévérer dans leur foi, Seigneur. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Merci. On continue la semaine prochaine.